Il est 7h à Paris, 6h en temps universel. Merci d'écouter RFI.
RFI Matin.
Et bonjour Martin Guez.
Et bonjour Julien Coquelouem, bonjour à toutes et à tous.
À la une, crise institutionnelle et constitutionnelle en Israël.
Alors que le gouvernement de Benjamin Netanyahou a décidé de limoger le chef du renseignement intérieur, la Cour suprême a hier suspendu cette décision. Les Israéliens descendent dans la rue pour protester. Le Premier ministre entend lui faire plier la justice du pays. Benjamin Netanyahou, qui voit désormais le secteur économique israélien s'opposer à lui, nous ferons le point en début de journal avec Michel Paul.
Autre mobilisation d'une autre ampleur en Turquie cette fois-ci.
Des dizaines, peut-être des centaines de milliers de personnes dans la rue pour la troisième nuit consécutive, et ce, malgré les interdictions des autorités, manifestations pour protester contre l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul, opposant au président Recep Tayyip Erdogan, et Ekrem İmamoğlu qui doit ce soir être déféré devant un tribunal. En France, réclusion criminelle à perpétuité pour Medine Mouche, le geôlier de l'État islamique. La cour d'assises spéciale de Paris a délibéré pendant plus de 10 heures. Medine Mouche, reconnu coupable de séquestration, de torture, de barbarie contre 25 occidentaux détenus entre 2013 et 2014, mais aussi contre de très nombreux anonymes syriens. En Guinée, l'opposant, ancien ministre Seloud Alain Diallo, bientôt inculpé dans l'affaire Air Guinée. Nous reviendrons aussi sur la journée mondiale de l'eau et sur Beethoven Wars, cette initiative originale qui mêle manga et musique classique. Et puis enfin, ne bougez pas, à suivre après ce journal, Pierre-Yves Bocquet, votre invité Julien, directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, et le journal des sports de Baptiste Leduc pour dire adieu à Big George, l'ancien poids lourd, George Foreman, mort cette nuit à l'âge de 76 ans.
Israël en pleine crise institutionnelle.
Des milliers d'Israéliens dans la rue à Jérusalem contre la révocation de Ronen Bar, le patron du Shin Bet, chef du renseignement intérieur. Un limogeage suspendu par la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire du pays, qui a gelé la décision du gouvernement Netanyahou. Le Premier ministre menace de passer outre, mais se heurte aux responsables judiciaires et même au secteur économique israélien qui s'oppose en grande partie à Benjamin Netanyahou. Correspondance, Michel Paul.
À commencer par la Histadrut, son secrétaire général souligne que la centrale syndicale israélienne ne pourra pas rester indifférente face à ce qui est qualifié de début d'anarchie. De son côté, l'Israel Business Forum, qui regroupe les 200 plus grandes entreprises privées du pays, notamment dans le domaine des technologies de pointe, menace de mettre à l'arrêt l'économie du pays si le gouvernement ne respecte pas le référé des juges de la Cour suprême. Menace de grève également de plusieurs municipalités, notamment celle de Tel Aviv et de la ville portuaire de Haïfa. C'est le cas aussi de plusieurs universités et du Conseil de l'Ordre du Barreau, qui pourrait paralyser l'ensemble des tribunaux en Israël. À ce stade, la Haute Cour de justice israélienne a suspendu le limogeage du directeur du Shin Bet, une injonction temporaire. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou campe sur ses positions. Selon la loi, c'est le gouvernement qui décide qui dirige les agences de renseignement, proclame Benjamin Netanyahou. La procureure générale d'Israël a mis en garde Netanyahou, mais elle fait elle-même l'objet d'une procédure de destitution lancée par l'exécutif qui sera examinée ce dimanche par le gouvernement israélien. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Le limogeage de Ronen Bar, pas vraiment du goût non plus du président israélien Isaac Herzog, qui a déploré les initiatives controversées de son gouvernement, créant, selon ses mots, de profonds clivages au sein de la nation.
La crise couve sur fond de reprise des bombardements à Gaza.
Israël qui continue de frapper le territoire, 11 nouveaux morts ce vendredi et 5 cette nuit, ce qui porte à 520 le bilan des morts depuis mardi, selon la défense civile gazaoui. Alors que dans le même temps, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a menacé d'annexer des parties de l'enclave palestinienne si le Hamas ne libère pas la soixantaine d'otages toujours retenus sur le territoire.
Et cette fois, une crise claire et nette en Turquie. Troisième jour consécutif de manifestation ce vendredi.
Et troisième nuit de mobilisation émaillée d'incidents. La police a fait usage de balles en caoutchouc à Istanbul et de canons à eau à Izmir. Alors que des centaines de milliers de personnes ont manifesté dans tout le pays, 300 000 personnes dans la rue, rien qu'à Istanbul, selon l'opposition, où le maire de la ville, Ekrem İmamoğlu, a été arrêté mercredi pour corruption et pour terrorisme. Des rassemblements interdits par le pouvoir. Au moins 97 personnes ont été arrêtées. Le président Recep Tayyip Erdogan a juré de ne pas céder à la terreur de la rue, alors qu'Ekrem İmamoğlu doit être déféré devant un tribunal ce samedi à Nandlöer.
La contestation s'amplifie et se durcit en Turquie. Dans l'attente de connaître le sort d'Ekrem İmamoğlu et de la mairie d'Istanbul, cette troisième soirée de manifestation a été la plus suivie et la plus réprimée. Le principal parti de l'opposition turque, le CHP, dont Ekrem İmamoğlu est membre, a affirmé que 300 000 manifestants s'étaient réunis autour de la mairie d'Istanbul, devenue l'épicentre de la contestation. Des rassemblements très suivis ont eu lieu à travers tout le pays, notamment à Ankara et à Izmir. Dans les trois plus grandes villes, la police a usé de gaz lacrymogène et de canons à eau contre les manifestants, mais aussi de balles en caoutchouc à Ankara et Istanbul. La tension pourrait toutefois se tendre nettement dans la nuit de samedi à dimanche, si Ekrem İmamoğlu est incarcéré et si la mairie d'Istanbul est placée sous tutelle du gouvernement. Dans un discours à Istanbul, Özgür Özel, le dirigeant du CHP, a lancé une mise en garde au président Recep Tayyip Erdogan, qu'il a qualifié de dictateur. Il a promis d'appeler à manifester samedi soir sur l'emblématique Place Taksim si, je cite, « il nous tape sur les nerfs ». Un Andler, Ankara, RFI.
Plus de 10 heures de délibéré avant le verdict à Paris, à savoir la perpétuité pour Medine Mouche.
Verdict qui a laissé le terroriste de 39 ans sans aucune réaction, réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une peine de 22 ans de sûreté, verdict de la Cour d'assises spéciale de Paris. Medine Mouche, déjà condamné à la perpétuité en Belgique pour la tuerie du musée de Bruxelles, reconnu hier coupable de séquestration, de torture, de barbarie. Acte commis en Syrie contre des otages occidentaux entre 2013 et 2014, mais aussi contre de nombreux Syriens non identifiés. Un verdict en forme de victoire pour Didier François, journaliste français et ex-otage en Syrie.
Honnêtement, ce procès, il a été exceptionnel. Il nous a donné la parole, mais il a donné la parole à tous nos camarades européens et tous nos camarades qui ne sont pas revenus. Rappelez-vous cette lettre extraordinaire, le testament, en fait, de John Cantley qui a été lu à la barre. Les Syriens ont pu être entendus. Pourquoi on a porté témoignage aussi fortement ? C'est pour raconter que ce qu'ont vécu au quotidien les Syriens face à l'État islamique qui a torturé en masse, liquidé en masse, qui a quand même réduit en esclavage sexuel les yézidis. Franchement, on a réussi à porter leur voix au-delà de notre cas. Et d'ailleurs, c'était intéressant, ce soir, la Cour a accepté de les joindre à notre situation d'otages français, journalistes, connus. Donc évidemment, pour nous, c'est plus facile de s'exprimer. Eux n'avaient aucun espace pour parler, pour raconter leur souffrance, pour raconter leur calvaire. Et bien aujourd'hui, une cour française leur a donné cette voix, leur a donné cette possibilité d'exister. Et ça, honnêtement, je trouve que c'est tout à notre honneur et c'est vraiment quelque chose de fort.
L'ex-otage Didier François, au micro RFI de Laura Martel. Tous nos articles sur le procès des geôliers de l'État islamique à retrouver sur notre site internet www.rfi.fr.
RFI, 6h07 à Conakry, où l'opposant Sellouda Ndiallo est en passe d'être inculpé.
Accusé notamment de corruption et de détournement de deniers publics par la Cour de répression des infractions économiques et financières. Dans l'affaire Air Guinée, l'ancienne compagnie aérienne qui a été vendue dans des conditions jugées suspectes. À l'époque où Dalain Diallo était ministre en charge de ce dossier, l'inculpation du président de l'UFDG, principal parti d'opposition, qui intervient pile une semaine après la suspension des plus importants partis politiques du pays. L'UFDG qui dénonce un acte purement politique visant à éliminer un poids lourd de l'opposition, Sidi Yansané.
C'est une affaire qui colle aux semelles de Sellou Dalain Diallo depuis deux décennies. Alors qu'il est ministre des Travaux publics et des Transports sous la présidence du général Lansana Conté, Dalain est chargé de vendre des appareils de la flotte Air Guinée, compagnie aérienne fondée peu après l'indépendance, motif de fierté de la Guinée révolutionnaire de Sékou Touré et dissoute dans les années 2000. Depuis, le président de l'UFDG est régulièrement visé par ses concurrents politiques pour son rôle dans cette disparition. Peu après son putsch en 2021, la junte du CNRD installe la CRIEF qui rouvre plusieurs vieux dossiers judiciaires, dont celui d'Air Guinée, une raison supplémentaire pour Sellou Dalain Diallo de s'exiler après avoir vu sa maison à Conakry être rasée sur ordre des nouvelles autorités. Son parti, l'UFDG, souligne à RFI que son président n'a été entendu ni par la justice guinéenne ni par une juridiction supranationale et dénonce des manœuvres politiques visant à laisser le champ libre au général Mamadi Doumbouya, qui a le soutien officiel de sa junte et du gouvernement de transition pour se maintenir à la tête du pays.
Explication signée, Sidi Yansané du service Afrique de RFI.
Après la première journée mondiale des glaciers hier, la journée mondiale de l'eau ce samedi.
Et si les glaciers fondent à toute vitesse, ils libèrent forcément d'immenses quantités d'eau qui se retrouve dans les fleuves, les rivières et les mers, phénomène qui risque de s'accélérer, Julien, dans les années à venir. Très inquiétant, notamment pour les territoires montagneux, Igor Strauss.
C'est un fait, la fonte des glaciers et la baisse du manteau neigeux vont avoir un impact considérable sur les rivières de montagne. Charlène Descolons, ingénieure hydrologue.
Pour les rivières influencées par la neige, on va avoir une disparition de l'onde de fonte, moins de neige, donc plus de pluie. Et donc ça veut dire qu'on va avoir un décalage des périodes de hautes eaux qui sont au printemps avec la fonte des neiges. On va les avoir en hiver et des basaux qui vont s'éterniser en fait en été.
Les torrents glaciaires, quant à eux, vont disparaître à mesure que les glaciers fondent. Et là encore, les impacts vont être considérables. Charlène Descolons.
Lorsqu'il y a une baisse de l'enneigement, on a une sécheresse et donc moins d'eau dans le barrage et donc moins d'eau disponible pour produire de l'électricité. Donc on peut s'attendre à une baisse de production électrique.
Plus en aval, sur le Rhône, le refroidissement de nos centrales nucléaires va poser problème. Et tout au long du parcours, c'est l'industrie de la région, son agriculture et son accès à l'eau potable qui seront affectés.
C'est très inquiétant pour les territoires qui sont en montagne, qui sont habitués à voir de l'eau et qui ne sont pas prêts en fait à avoir les hydrosystèmes et les écosystèmes complètement bouleversés par ce changement climatique.
Pour Charlène Descolons, il est donc fondamental de s'adapter avant que le manque d'eau nous oblige à renoncer à certaines activités vitales pour les zones de montagne. Igor Strauss, Bourg-Saint-Maurice, RFI.
Et autre journée mondiale, en ce samedi 22 mars, la journée mondiale contre le racisme et contre le fascisme. En France, plus de 100 manifestations sont prévues, notamment cet après-midi à Paris.
On termine en musique, Martin et Beethoven remis au goût du jour.
Oui, Ludwig van Beethoven, célèbre compositeur allemand du 19e siècle, l'un de vos préférés, Julien, bien connu des amateurs de musique classique, avec de vrais tubes, hein, comme la sonate au clair de lune, la tempête ou la 5e symphonie. Beethoven peut-être bientôt dans la playlist des fans de manga, puisqu'une grande chef d'orchestre prend une initiative, disons, audacieuse. Un opéra immersif nommé Beethoven Wars, qui allie musique classique et manga japonais. Carmen Lunzmann.
120 musiciens sur scène et un écran de la taille de deux terrains de tennis projetant des images de 50 graphistes autour d'une guerre spatiale digne de Star Wars. À l'origine de Beethoven Wars, il y a la passion de Laurence Eckelbey pour les musiques de scène. Celle de Beethoven, peu connue du grand commun des mortels, comme Le Roi Stéphane ou Les Ruines d'Athènes.
Vous avez le cœur des derviches qui est incroyable, cette fameuse marche turque. Il y a aussi une marche solennelle quand la paix est signée, qui est absolument sublime en tirée du Wagner. Enfin, des œuvres qui méritent d'être reconnues.
Pour sortir ses œuvres au grand jour, la chef française a eu l'idée de les propulser dans un univers futuriste inspiré par les codes du manga. Deux univers étonnamment liés.
Beethoven était un compositeur totalement utopiste au niveau humain, très romantique, idéaliste, croyant aussi que les arts sauveraient l'homme. Et dans le manga, il y a aussi cette question d'héroïsme, d'utopisme et de valeurs humaines.
Combat pour la paix, une planète menacée, cette histoire plus actuelle que jamais a fait exploser les taux de fréquentation à la scène musicale de Paris lors de la première mondiale, avec 63% de nouveaux publics et 50% de moins de 20 ans.
Même si on a un peu plus de 20 ans, Julien, Beethoven Wars, à votre agenda, je vous y emmène pour mon anniversaire le 26 mai prochain à la scène musicale.
Eh ben c'est bien noté, on vous le souhaitera. Merci Martin Guez. Dans moins de 10 minutes, notre invité, Pierre-Yves Boquet, directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, il signe un livre pour alerter sur les projets du Rassemblement National de référendum sur l'immigration en France en cas de victoire en 2027. Un projet qui défigurerait la Constitution et provoquerait un changement de régime en France. Selon lui, on en parlera dans quelques minutes, mais tout de suite, c'est le journal des sports. Avec vous, Baptiste Leduc, la boxe vient de perdre une de ses plus grandes légendes. L'américain George Foreman est décédé cette nuit à l'âge de 76 ans.
Une puissance surhumaine, une carrière épique. Il y a tellement de choses à retenir de George Foreman, champion olympique en 1968, puis du monde en 1973 une première fois, avant de le redevenir en 94 après 10 ans hors des rings. Le poids lourd reste aussi, et bien sûr, célèbre pour avoir perdu le combat du siècle, le Rumble in the Jungle à Kinshasa en RDC. C'était en 1974, contre une autre légende du noble art, Mohamed Ali, qui lui avait infligé devant 100 000 personnes le seul chaos de son immense carrière. Souleymane Sissoko, le boxeur franco-sénégalais, salue la mémoire d'un des plus grands de tous les temps.
George Foreman, c'est une icône pour nous, c'est une source vraiment d'inspiration pour nous, en tout cas en tant que boxeur, parce que c'est quelqu'un qui a illuminé la boxe. Le fait de revenir après 10 ans d'arrêt au sommet, pour moi, c'est une preuve de résilience et il inspire plus d'un boxeur et même sportif. C'est une icône, c'est vraiment une icône du sport qui a disparu. Faut se rendre compte, on perd l'un des meilleurs poids lourds de tous les temps. L'un des meilleurs poids lourds de tous les temps en boxe. C'est clair et net.
Des propos recueillis par Martin Guèze.
À la une également les championnats du monde d'athlétisme en salle en Chine et un titre mondial pour la France.
Oui, celui de Marie-Julie Bonin au saut à la perche, c'est à Nankin, ça vient de tomber. La Bordelaise de 23 ans, déjà médaillée de bronze aux championnats d'Europe il y a deux semaines, décroche ainsi son premier titre international avec un saut à une barre de 4,75 m.
À la une également du rugby, début ce samedi du tournoi féminin des 6 nations, le 15 de France se déplace en Irlande.
Après les Bleus de Fabien Galthié et les U20, la France espère encore étendre sa suprématie européenne en matière de rugby. Les joueuses de Gaël Mignot et David Ortiz commencent le tournoi par le 15 du trèfle. Des matchs qui seront sûrement très suivis, comme l'ont été ceux des hommes. Le rugby féminin voit sa cote grimper auprès du public et des licenciés, comme le confirme Gaël Mignot, la co-sélectionneuse.
Moi, je crois que le rugby féminin est en constante évolution. Je crois que récemment, le championnat le démontre avec ce top 10, avec des matchs qui sont remplis d'enjeux en permanence, des matchs télévisés, du public qui se déplace tous les week-ends sur les matchs d'élite, la journée des finales où toutes les équipes se rencontrent. Je crois que le rugby féminin est en constante évolution et on le voit aussi sur l'échiquier mondial où cette équipe d'Irlande a démontré avec ce W15 qu'aujourd'hui il fallait compter sur elle pour la fin.
Irlande-France sera à suivre à partir de 13h en temps universel.
Et on termine avec la Formule 1, première victoire pour Lewis Hamilton au volant de sa Ferrari.
Le Britannique s'est lancé de la pole position pour la course sprint du Grand Prix de Chine. Il n'a pas lâché la tête et s'impose devant Oscar Piastri et Max Verstappen au terme des 19 tours de piste. Lewis Hamilton et Ferrari auront l'occasion de poursuivre ce beau week-end dès 7h TU avec les qualifications qui détermineront la grille de départ de la course. Version longue cette fois, ce sera dimanche.
Baptiste Leduc, merci beaucoup, à tout à l'heure. Et dans Menace sur l'information, ce matin, cap sur Haïti, avec ce qui ressemble, selon l'UNESCO, à un changement de tactique de la part des gangs afin d'isoler la population. L'inquiétude onusienne, alors que Port-au-Prince est en proie à une nouvelle flambée de violences armées depuis deux mois. Les gangs multiplient les attaques contre les quartiers qu'ils ne contrôlent pas encore et depuis quelques jours, plus particulièrement contre la presse. Trois médias ont été attaqués en moins d'une semaine, Marine de la Moissonnière.
Les locaux de la radio-télévision Caraïbe, situés à la rue Chavanne, ont été incendiés par les bandits.
Le 13 mars dernier, l'attaque dont a été victime radio-télévision Caraïbe pendant la nuit est à la une des médias haïtiens. Les locaux historiques étaient vides depuis plus d'un an. Par mesure de sécurité, les équipes s'étaient installées dans une zone plus calme, mais le bâtiment contenait encore des équipements et surtout, c'est une institution, l'un des plus vieux médias haïtiens et l'un des plus suivis qui a été pris pour cible quand il découvre les images de l'incendie sur Internet. Michel Joseph, co-directeur de la salle des nouvelles de Radio-Télévision Caraïbes, est secoué.
C'était un mélange de colère, de tristesse et d'impuissance. Colère parce que c'est une attaque directe contre notre mission de tenir le public informé dans un contexte où l'accès à l'information est vital. Tristesse parce que ce bâtiment chargé d'histoire représente des décennies de travail acharné et de dévouement pour la vérité. Et enfin, je peux parler d'un sentiment d'impuissance face à la violence croissante qui semble ne pas épargner même ceux qui se battent pour donner une voix aux sans-voix aujourd'hui en Haïti.
La même nuit, les gangs ont aussi incendié la radio Mélodie FM. Trois jours plus tard, c'est Télépluriel qui est saccagé. Même les toilettes sont détruites. Pour Michel Joseph, les gangs savent très bien ce qu'ils font.
Attaquer les médias et attaquer Radio-Télévision Caraïbes notamment, qui est un média très puissant, c'est envoyer un message très fort. Si on réduit les journalistes au silence, la population n'aura pas accès à l'information et les bandits pourront établir leur loi comme bon leur semble. Donc trois médias en une semaine, ça fait montre vraiment de la montée de la puissance des gangs ces dernières semaines en Haïti.
Caraïbes FM, nous c'est roseau, nous plier, mais nous pas jamais casser.
Radio-télévision Caraïbes qui comme un roseau plie mais ne casse pas, dit ce journaliste. Pas question de baisser les bras, insiste Michel Joseph.
Non, on ne peut pas arrêter parce qu'aujourd'hui, la presse reste le dernier rempart de la démocratie. Oui, certaines fois, on est au bord du découragement. On n'a pas le droit d'abandonner.
Ces attaques n'ont fait que des dégâts matériels, mais en décembre dernier, alors qu'ils couvraient la réouverture d'un hôpital, deux journalistes haïtiens ont perdu la vie sous les balles des gangs. Sept autres ont été blessés.
Menace sur l'information avec Marine de la Moissonnière. 7h19 à Paris, alors qu'aux États-Unis, 2 mois de présidence Trump ont changé le visage du pays, sans parler du monde, une avalanche de décrets aux airs d'offensive législative, un démantèlement de pans entiers des institutions, une telle transformation politique, un tel recul démocratique serait-il possible en France? C'est ce que craint et même ce que prédit notre invité ce matin dans le cas d'une arrivée au pouvoir du Rassemblement National, le parti d'extrême droite de Marine Le Pen, finaliste des deux dernières présidentielles. Bonjour Pierre-Yves Bocquet.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes haut fonctionnaire, ancien conseiller mémoire de François Hollande à l'Élysée, aujourd'hui directeur adjoint de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et auteur de ce livre paru il y a quelques semaines, La Révolution nationale en 100 jours et comment l'éviter, une démonstration du putsch juridique que préparerait selon vous le RN pour défigurer la Constitution française en passant par un texte, un seul de 18 pages, le projet de loi constitutionnelle sur l'immigration du Rassemblement national. Sur le fond, que prévoit-il ?
Il prévoit de changer la Constitution pour permettre de mettre en œuvre ce qui est le cœur du programme de l'extrême droite aujourd'hui, mais qui l'a toujours été depuis un siècle, le programme de la France aux Français, une discrimination légale des étrangers. Et pour permettre cette xénophobie légale, d'inscrire dans les textes de loi que l'on peut discriminer les étrangers parce qu'ils sont étrangers, en fait, il faut renverser les principes de notre République, ceux qui sont nés de la Révolution, notamment le principe d'égalité. Et donc, ce que fait ce texte, et c'est pour ça qu'il doit toucher à la Constitution, c'est qu'il ébranle ces dispositions, il remet en cause le socle de constitutionnalité, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, il affaiblit les principes généraux d'égalité, et ensuite, en pratique, il vise une catégorie d'habitants de la France, les étrangers, mais en ébranlant l'ensemble du dispositif, il nous met en danger, nous tous. Et c'est cette logique qu'il faut comprendre, c'est que pour toucher les étrangers, on fragilise l'ensemble de notre socle juridique.
Alors tout est prévu dans le projet de loi, vous en parlez dans le livre, le retour sur le principe d'égalité, l'exclusion des étrangers de certaines professions, la suppression du droit du sol, l'atteinte aux droits des binationaux, l'inversion de la hiérarchie entre droit français et droit européen international. Vous parlez d'une rupture majeure dont la radicalité suffit à démentir la prétendue normalisation du parti de Marine Le Pen, et vous parlez d'une radicalité aussi sur l'ampleur, le volume de la révision de la Constitution.
Oui, puisque le changement est tellement radical qu'il suppose de toucher la Constitution à plein d'endroits. Le projet, c'est pour ça qu'il fait 18 pages, il modifie 18 articles de notre Constitution, qui en compte 108, et il en ajoute 7.
Il modifie ça fait à peu près un tiers de la Constitution.
Ça fait à peu près, ou 20% de la Constitution. Enfin, c'est énorme. Aucune réforme constitutionnelle depuis 1958 n'a été aussi ambitieuse, aussi cohérente et aussi massive sur les principes eux-mêmes. Et ce choc doit être aussi brutal parce que les principes de la Révolution française sont ancrés à plein d'endroits dans la Constitution, et donc il faut toucher plein d'endroits de la Constitution pour les remettre en cause.
Et vous le disiez, ce projet menace bien au-delà des étrangers et des binationaux. Il créerait, selon vous, une prison juridique de la taille de la France. Vous écrivez que le pays s'affranchirait notamment d'à peu près tous ses engagements en matière de droit international, y compris sur les questions qui dépassent l'immigration. Il y a, selon vous, derrière ce texte, la possibilité que la France devienne un État illibéral comme la Hongrie ou la Russie ?
Oui, et ces exemples, la Hongrie ou la Russie, sont les exemples que revendique le Rassemblement National dans l'exposé des motifs de ce texte.
Encore aujourd'hui ?
Encore aujourd'hui. Il le disait en 2021, quand ils l'ont présenté dans le cadre de la campagne présidentielle. Et ces deux exemples sont restés dans la dernière version de ce texte qui a été déposé à l'Assemblée nationale en 2024, début 2024, et qui fait référence au fait que la Russie et la Hongrie n'ont pas dénoncé notamment la Convention des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, mais ont estimé que leur droit interne était supérieur à ces normes et ont privé donc leurs citoyens de recours de devant ces juridictions. Et c'est ce que veut faire, c'est ce modèle-là que revendique le Rassemblement national en disant on n'a pas besoin de dénoncer ces textes, on peut juste dire que notre Constitution leur est supérieure en tout, et notamment lorsqu'elle dit des choses qui sont contradictoires avec les principes fondamentaux des droits de l'homme que ces textes défendent, aussi les textes des Nations Unies.
Alors il y a le fond et il y a la forme, Pierre-Yves Bocquet, car selon vous c'est précisément la radicalité du projet qui le rend réaliste. Marine Le Pen veut passer par un référendum pour ses révisions de la Constitution, avec comme clé de voûte une subtilité constitutionnelle, disons, l'utilisation d'un article de la Constitution qui n'est pas prévu pour ça. Expliquez-nous.
Alors, dans la Constitution, pour réformer ce texte, il y a un texte, un article, l'article 89, qui dit que si vous voulez changer la Constitution, vous pouvez le faire, mais il faut d'abord mettre d'accord l'Assemblée nationale et le Sénat, et ensuite, sur ce texte, soit le soumettre aux Français, dans le cadre d'un référendum, ça a été fait en 2000, soit réunir le Congrès, c'est ce qu'on fait d'habitude. Marine Le Pen n'utilise pas cet article, elle utilise un autre article qui est un pouvoir propre du président, qui peut soumettre un texte de loi aux Français, c'est l'article 11. Mais cet article 11 ne dit pas que on peut modifier la Constitution de cette façon-là. Elle le fait pourquoi ? Parce que la différence entre l'article 11 et l'article 89, c'est que il y a plus de débat au Parlement. C'est que on peut organiser un référendum en moins d'un mois, poser une question, changer radicalement la Constitution et ne laisser que 3 semaines aux Français pour en parler, sans possibilité d'amendement, sans passage au Parlement, sans que l'Assemblée nationale et le Sénat en débattent et se mettent d'accord. Et donc, au bout des 3 semaines, le seul choix qui est possible, c'est oui ou non. Et si c'est oui, la Constitution est entièrement changée et les choses sont terminées.
Ah voilà, une utilisation d'un article, l'article 11, que Marine Le Pen revendique depuis quelques années pour préparer l'opinion également, si bien que des constitutionnalistes disent ce scénario est exposé mais il n'est pas réaliste. Vous dites qu'il y aurait un effet de souffle d'une victoire de Marine Le Pen et que le RN pourrait s'engager dans un bras de fer contre les institutions qu'il pourrait gagner.
Oui, et ce risque existe, et il existe d'autant plus qu'il y a un précédent dans l'histoire constitutionnelle de la France. En 1962, le général de Gaulle a fait exactement la même chose et a gagné ce référendum. Si nous élisons
contre l'avis du Conseil constitutionnel,
contre l'avis du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, de l'Assemblée nationale, du Sénat, la première motion de censure a été votée à ce moment-là, et la seule jusqu'à l'année dernière. Si nous élisons le président de la République au suffrage universel, c'est à cause de ce référendum gagné par Charles de Gaulle. Et donc Marine Le Pen, qui connaît son histoire constitutionnelle, revendique ce précédent, qui est considéré par la plupart des constitutionnalistes comme un détournement de procédure encore aujourd'hui par le général de Gaulle. On nous dit que depuis, le Conseil constitutionnel a pris plus de d'ampleur. Il y a une jurisprudence qui s'est enrichie, mais il n'a jamais été confronté de nouveau à un choc de ce type sur ces institutions. Et effectivement, ce que je dis, c'est que comme le Rassemblement national revendique cette méthode, veut être élu dessus, il aura une légitimité qui rendra le Conseil constitutionnel impuissant à empêcher cette mécanique.
Et vous détaillez les conséquences que cela pourrait avoir, un changement de régime, dites-vous, avec notamment le référendum qui deviendrait un outil pour contourner les contre-pouvoirs. Vous appelez aujourd'hui à réformer, à réviser la Constitution pour la protéger. Un dernier mot, Pierre-Yves Bocquet, vous dénoncez le silence politique et médiatique sur ce sujet, sur ce projet du RN. Avez-vous l'impression que votre livre a suscité un écho ?
Un petit écho, et je vous remercie de m'avoir invité pour en parler. Un petit écho, je regrette qu'on n'en parle pas suffisamment dans les médias pour dire effectivement la nature de ce projet, et dans le monde politique pour se préparer à y résister, puisque comme je le montre à la fin du livre, on peut modifier la Constitution et on peut le faire vite pour éviter que ce scénario que je décris ne devienne une réalité dans quelques années.
Merci Pierre-Yves Bocquet. Je rappelle donc le titre de ce livre, à se procurer, La Révolution Nationale en 100 jours et comment l'éviter, aux éditions Gallimard Tract. Bonne journée.
Merci.
Et à bientôt sur RFI.
Géopolitique,
Chantal Leroux.
Guerre commerciale tous azimuts, désengagement américain du vieux continent, alignement de la Maison-Blanche sur le discours de Vladimir Poutine. Quelle stratégie pour les Européens face à la loi du plus fort qui régit le monde selon Trump? On en débat avec Bertrand Badi, Christine Dugoin-Clément et Pierre Servant.
Géopolitique, Chantal Leroux.
Tout à l'heure, à partir de 18h40 TU.
RFI. Le goût du monde, Clémence de Navy.
Il est dit qu'à Norouze, les maisons sont transformées en jardins de blé et de lentilles germées. La nature vibre, le sumac, son acidité mêlée à la légèreté du riz, des herbes partout comme une plongée dans un plat de printemps. Et la lumière, Norouze à la table d'une femme chef et de sa famille ce dimanche, à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde, Clémence Denavy sur RFI.